9h30, l'Affaire est publique, avec Charles Gaudreau.
Bienvenue à l'Affaire est publique, émission du jeudi 23 janvier 2025. Article dans Le Devoir de ce matin. L'itinérance déborde à Longueuil. Hein, on nous dit que y a des défis de cohabitation importants là, entre la passerelle et le métro, entre autres. Il semblerait que la passerelle vers le métro Université de Sherbrooke, qui relie des habitations nouvellement construites ou plus anciennes dans ce secteur-là, ça a été non pas assiégé, mais c'est devenu un des endroits de prédilection de plusieurs itinérants. On parle de passerelle, celle de la rue d'Assigny, entre autres, qui a pris des allures de refuge, nous dit Marco Forcier ce matin. Une dizaine de personnes qui ont établi un campement dans ce passage-là, qui s'est vite rempli de déchets, de canettes de bière, de fumée de cigarette, d'une odeur d'urine. Il y a même une alerte d'incendie, puis une personne itinérante qui a été poignardée dans les derniers jours. Alors, ça inquiète bien des gens. On parle ici principalement de cohabitation, mais d'abord et avant tout, on parle de froid. Le froid des derniers jours, les nuits sont tellement plus froides, autour de moins 30 à certains moments. Je le sais parce que je me lève la nuit pour venir travailler. J'ai toujours une petite pensée pour les gens qui vivent dans la rue, les sans-abri qui vivent dans la rue, où ça doit être tellement épouvantable. Alors, pour avoir un petit peu le pouls, l'état des lieux, on s'était dit qu'on se rappellerait Gilles Beauregard de la table d'itinérance de la Rive-Sud. Bonjour.
Bonjour Charles.
Alors, il y a deux sujets ici, mais en même temps un seul et même sujet qui est l'itinérance, un toit au-dessus de la tête qu'on n'a pas, une situation dramatique pour tous ces gens-là aussi. Alors d'abord et avant tout, est-ce qu'il y a encore du monde qui dort dehors à Longueuil à moins 30 de ressenti?
Bon, c'est dur. On fait des suivis. Comme je te disais la dernière fois, Charles, on fait des rencontres tous les mercredis matin. Puis effectivement, on avait notre rencontre de prévu avec les partenaires tout le temps le mercredi matin. Mm-hmm. Pour bien suivre, c'est d'autant plus important de suivre le dossier, de suivre nos trajectoires de service dans les conditions actuelles, comme tu dis, Charles. Tu te lèves le matin et puis tu peux t'as une pensée spéciale avec la température qu'il fait. Puis effectivement, nos groupes, dans cette période, là, c'est sûr que nos groupes se montrent un petit peu plus flexibles en termes d'offres de services. C'est-à-dire que, l'abri de la Rive-Sud va augmenter son offre de services. Macadam va augmenter les heures d'ouverture de son centre de jour. Même chose au repas du passant. Du côté de la halte répit qui accueille des gens qui ont une capacité de 15. La ville de Longueuil me disait qu'elle avait monté à 23 même. Il laisse personne dormir dehors. En autant qu'il respecte les règles, parce que des fois, c'est pas évident dans une roulotte d'avoir 23 personnes sans qu'il se passe de quoi, là, avec des gens qui sont irrités, là. Fait que tout le monde a augmenté l'offre de service puis la halte du coin aussi. Du côté de la passerelle, on était, ça fait déjà un certain temps, là, qu'on était sensibilisé au fait qu'il y avait des enjeux au niveau de la passerelle d'Arcigny. On a eu la ville a déjà mis déjà intervenu avec la présence de garde de sécurité supplémentaire. Comme le rappelait la mairesse Catherine Fournier dans l'article, elle disait que c'est tolérance zéro au niveau des passerelles. Là. On a réagi rapidement. Là. On les réfère du côté des organismes qui sont ouverts. Parce que là, c'est pas tout le monde qui sait quand on rouvre les services plus, c'est pas tout le monde qui s'aperçoit que les services sont ouverts plus. Fait que il y a comme un genre de transition, là. Mm-hmm. Fait que cette période de transition-là fait que les gens ils savent pas qu'il y a plus de services. Fait qu'ils se rendent pas dans les ressources tout de suite. Mais il y a aussi dans l'article, il y avait aussi le fait que, puis ça c'était aussi pertinent, que c'est malheureusement pas tout le monde qui veut aller dans les ressources communautaires. Fait que on faut vivre avec ça. Fait que l'équipe de mobile, les policiers réseau, nos travailleurs de rue sont très au fait et sont très proches de cette cliente, de ces personnes-là, pour essayer de les relocaliser le plus possible. Mais ça demeure un défi parce que malheureusement, il se crée plus d'itinérance. On réussit à faire en sorte que, il y en a qui se prennent en main, mais malheureusement, il y a plus de monde qui tombe dans l'itinérance. Fait qu'il se fait plus d'itinérance que le monde qui sort.
Oui, on a parlé il y a quelques jours, toi et moi d'ailleurs, on a parlé du décompte. Évidemment, difficile de dire il y a combien de personnes. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y en a beaucoup plus. En contrepartie, est-ce que suffisamment de ressources sur le terrain? Est-ce que on parle de l'équipe proximité dans ce reportage-là, dans Le Devoir, mais est-ce que suffisamment de monde dans les rues prêt à aider les gens? Est-ce que suffisamment de monde dans les ressources également?
On a augmenté dans les trois dernières années le nombre de personnes d'environ 20 %. Puis même au niveau de l'hébergement, notre capacité a augmenté de 20 %. Okay. Malheureusement...
Ça veut dire combien de personnes travaillent, grosso modo, à accompagner les itinérants, les sans-abri, actuellement?
Actuellement, au niveau du... tu as une quarantaine de personnes qui sont investies, mais il faut dire que le rôle de chacun est différent. Bon, on a les policiers réseau, une vingtaine de policiers réseau qui est présent sur le terrain, mais la seule affaire, ils vont couvrir toute l'agglomération de Longueuil, puis eux autres, c'est pas des intervenants, ils font plus du repérage puis la référence. OK? Fait que quand tu regardes au bout du compte des gens qui accompagnent ces personnes-là.
On parle de Stéphanie Racicot ce matin dans l'article.
C'est ça, l'équipe mobile, on parle de l'équipe de travailleurs de rue, de Macadam, puis il y a des gens aussi d'émissaires, il y a des gens aussi de virage, CRD, une personne. Fait que, tu sais, ces gens-là, malheureusement, il faut que tu aies du temps pour essayer de les accompagner, parce qu'ils demandent énormément, ils ont des besoins importants, fait que c'est important de les accompagner. Mais nos équipes n'ont pas toujours le temps de les accompagner dans une démarche. Dis donc, on se retrouve à des références, puis à un moment donné,
J'ai le beau regard. L'idée derrière tout ça, c'est d'amener ce monde-là vers des ressources où il y a de la chaleur, où il y a de quoi de à manger un peu aussi, j'imagine.
Bien, c'est sûr.
La difficulté est là. La difficulté est là aussi.
Des fois, ces gens-là, ils traînent les trucs, puis demander de se déplacer, puis aller, mettons, au repas du passant pour aller manger ou aller relaxer dans nos centres de jour. C'est pas évident de se déplacer non plus. Ça n'a rien, là, mais le métro, puis aller vers les ressources qui sont plus dans le vieux Longueuil. Fait qu'on essaie tout le temps de trouver des façons on donne des billets de taxi.
Parce que, il y a un grand froid, dans ce secteur-là, c'est un espace de grand ventre, le métro Longueuil. Et le vieux Longueuil, à pied.
Ah, définitivement.
Ouais, donc, on reste là.
L'enjeu de cohabitation, tu l'as nommé, Charles, je veux dire, c'est pas drôle aussi pour la population qui ont des fois à faire partie de l'équation aussi. Puis on est bien soucieux de l'équation itinérance puis citoyen aussi, parce que des fois, il y a des gros enjeux de cohabitation aussi. Tu me disais tantôt que ton fils, il passe par la passerelle.
Pas mon fils à moi, mais des gens qui disaient dans l'article. Une dame qui disait « Mon fils passe là tous les matins pour aller à l'école. Je suis inquiète. » Avec raison, d'ailleurs, si ça joue du couteau dans le secteur-là.
Oui. C'est normal d'être inquiet. Puis, on est bien soucieux de ça. Tout de suite, quand c'est arrivé, nous avons dit on a une brigade de cohabitation. On est allé faire de l'observation pour essayer de bien comprendre la situation, pour essayer de voir, c'est-tu notre monde, mettons, qui sont dans les passerelles? C'est-tu notre monde qui vont à la Alterébi qui est au métro Longueuil. À partir du moment où bien comprendre, on peut c'est-tu du monde de Montréal, faut bien comprendre pour essayer d'appliquer les bonnes interventions aussi.
Oui, parce que métro Longueuil, ça peut être des itinérants de Montréal, tout simplement, qui s'amènent vers la Rive-Sud, là. Il y a des gens qui transitent beaucoup, là.
Qui sont, la Alterébi n'est pas ouverte de jour au niveau du métro Longueuil.
Ouais.
Du monde qui tu sais, vu qu'elle ferme dans la journée, c'est tout le monde de la halte répit. Mais, tu sais, on essaie d'adapter le plus possible, nos services. Mais il y a quand même, comme je te rappelle, il y a toujours une belle collaboration. C'est pas toujours facile, non? Chacun a des intérêts différents, là. Mais quand même, on arrive à faire des belles choses à Longueuil. Mais, tu sais, je veux dire, on a quand même, les interventions, on est comme une quinzaine, vingtaine qui se rencontrent de façon régulière.
OK.
Mais là, c'est pas. Quand tu regardes le centre-ville de Montréal, les autres, ils seraient 80 organismes différents. C'est difficile de s'entendre. Nous autres, on réussit à s'adapter.
À faire un plan de match puis à le suivre.
Ouais, faire un plan de match, l'adapter, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est tout le temps des problématiques qui évoluent rapidement, hein.
Ouais.
Fait que comme ça évolue rapidement, faut être capable de, tu sais, avant, il y a des années où ce que, bon, on avait, quand on avait 4 ou 5 tentes à Longueuil, l'hiver, c'était beau. Mais là, on est des fois à 20 puis 30, là, tu sais. Fait que c'est un phénomène qui est assez nouveau. Fait que là, ces phénomènes-là, ben, faut être capable de l'adresser. Puis bon, là, on est, mais bon, là, ce matin, je m'en vais réunion après mon entrevue avec toi, avec le projet Un toit pour tous qui va développer un 30 logements sur Côte-Rouge qui est en pleine construction. Oui. C'est la phase 1. Il va y avoir une phase 2 aussi, là, avec un 54 logements.
Bon, ça, on avait parlé avec Marie-Claire, mais Claude, il n'y a pas si longtemps de cette affaire-là, effectivement.
Puis bon, on a Acadia aussi qui va arriver avec des lits supplémentaires. On essaie de développer d'augmenter notre, de bonifier nos offres de services. Ceux qui en ont plus de difficultés, ben on essaie de les aider le plus possible à consolider et à développer leurs services, s'ils veulent développer des services aussi, là. Parce que c'est développer des projets. On a un beau projet là, où on réfléchit sur les maisons de chambre aussi du côté de Longueuil, là, pour essayer de voir combien qu'on a de maisons de chambre. La ville de Longueuil a une recherche, travaille sur une recherche. Parce que ça, c'est quelque chose de très concret, très court terme qui peut se faire aussi.
Mais Gilles, est-ce que c'est une véritable, puis je pose une question, là, je me fais l'avocat du diable, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des chambres pour les itinérants, les sans-abri, quand on vit dehors, quand on apprend à vivre dehors jour après jour après jour, pendant des semaines, des mois, est-ce que se retrouver entre quatre murs pour bien des gens, c'est la solution?
Ben, c'est drôle que tu... Parce que, bon, j'ai quand même de l'expérience en cravate, là.
Oui, pour ça, je te parle.
parce que des fois, les gens disent, faut les loger. Oui, les loger, c'est bien, mais faut les accompagner dans le logement aussi.
Ouais.
Parce que, en quatre murs, là, tu sais, à un moment donné, là, pourquoi...
Ma job est faite, ils sont entre quatre murs, c'est pas de même, ça marche.
Le réseau social, c'est le réseau des chums de la rue. Là.
Ben oui.
Il faut faire attention, il faut les accompagner comme ça là-dedans. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un là, qui avait une belle chambre, puis il a quitté après quelques jours parce qu'il n'était pas capable de gérer son quatre murs, comme tu disais. Là. Il faut vraiment les accompagner dans leurs quatre murs, faire des suivis. L'équipe mobile fait ça, des suivis aussi, là. Du côté de... Tu sais, quand on les place en logement, là, ils font des suivis. Mettons qu'ils vont les placer chez Lise, là, par exemple. Là,
ouais.
Ben, ils vont aller faire des suivis avec eux autres pour voir si...
Comment ça se déroule, si tout est bien, parce que...
C'est un must, ça.
Il y a le quotidien à gérer.
Oui.
Autre affaire, puis on va terminer là-dessus. Un des itinérants interviewés par le journaliste du Devoir, je pense que c'est... comment s'appelle-t-il? Peu importe, là, donc, Paul, voilà, un itinérant qui dit... être itinérant, c'est pas criminel à ce que je sache. Puis il y a quelque chose, il y a une espèce de... Non pas de fatalité, mais j'ai fait... Ben, effectivement, est-ce que c'est criminel que d'être itinérant?
Oui, là.
Il dit pas un crime, c'est pas un crime d'être dans la rue.
Moi, là, je reçois des téléphones. Moi, comme je suis à la table itinérance Rive-Sud, je reçois des téléphones, puis je me permets, moi, je suis posé de pas travailler avec les gens comme tel, mais je me permets de temps en temps de les aider. Les fins de semaine, quand j'ai des téléphones, non? Puis je vois que c'est des amis de mes enfants là, qui sont dans des... Puis que c'est mes enfants qui me réfèrent des personnes là, de l'autre. Ouais. Si on les appelle des criminels, là, si on les voit comme des criminels, là, où est-ce qu'on est rendu là? Parce que c'est ton frère, c'est ma soeur, c'est mon oncle, c'est mon père, c'est ma mère. Ça, ces personnes-là, c'est des êtres humains. Puis si on est rendu à dire que c'est des criminels,
Mais la question est posée par Paul qui dit est-ce qu'on est des criminels? C'est pas un crime à ce que je sache, ça n'en est pas un.
Non,
ça reste pas d'être dans la rue.
Il faut valoriser, faut essayer. Une des choses qu'on essaie de travailler très fort à la table d'itinérance Rive-Sud, c'est la participation citoyenne. Cette année, on a travaillé, puis on essaie de faire en sorte que ces gens-là, ces êtres humains-là, soient considérés. Fait que, on a beaucoup d'implications. On a travaillé très fort pour qu'ils soient impliqués. Quand il y a des colloques, on veut les impliquer dans les colloques. On veut qu'ils prennent la parole. À la nuit des sans-abri, il y a eu des témoignages. Des façons de travailler. Puis ça, on veut semer cette à longueur. On a beaucoup ça dans notre ADN. C'est pas tout partout comme ça, parce que ça donne un trouble de plus, là. Mais l'implication des gens, puis montrer que c'est des êtres humains.
C'est pas des cobayes puis des rats de laboratoire.
C'est les consulter, les impliquer, qu'ils soient là quand que, bon, on a des trucs, là, faut qu'ils soient là. C'est super important, parce que c'est là, à ce moment-là, qu'ils peuvent un petit peu plus, ils sont plus transparents, puis ils vont être capables de l'offre de service, ben, telle chose. Il n'y a rien les fins de semaine, il faudra qu'il y ait de quoi.
Oh, OK.
Un petit peu. Ouais. Non, faut pas que.
Il n'y a rien les fins de semaine.
Les personnes aient cette perception-là.
J'aimerais t'entendre, il n'y a rien les fins de semaine?
Ben là, on a commencé au niveau des fins de semaine, c'est-à-dire que les fins de semaine, nos hébergements,
oui.
Mais au niveau des services, on pourrait développer plus. Là, l'équipe mobile est présente.
Okay.
La halte du coin a développé depuis pas longtemps un centre de jour qui est ouvert. Fait qu'il y a moins de services les fins de semaine. Mais on travaille là-dessus aussi. Fait que c'est bon, ça se développe.
Voilà. Donc à suivre. Merci Gilles Beauregard, toujours un plaisir.
OK, merci Charles.
OK, Gilles Beauregard qui est de la table d'itinérance Rive-Sud.